Bonjour tout le monde et bienvenue à la deuxième épisode de la French Connection. Cette semaine, on a une nouvelle personne et pour une fois de plus, la France nous a abandonnés. Donc, avec moi cette semaine, on a Nicolas. Salut Nick. Hello. On a Richer.
Hello.
Et Guillaume.
Hello.
Et Steven qui se joint à la French Connection. Salut.
Hello.
Donc, tout le monde du Québec, comme je dis, notre Europe a défailli encore une fois. On va essayer d'arranger ça pour la prochaine fois. Les sujets étaient intéressants, mais bon, ça sera pour une autre fois. Ce mois-ci, janvier, on a plusieurs sujets intéressants. Il s'est passé énormément de choses, du moins au Québec. Plusieurs attaques, plusieurs nouvelles intéressantes et quelques petits sujets intéressants aussi. Pour débuter le tout, je vais y aller avec Guillaume.
Donc, moi, je voulais parler de notre ami Rudy Giuliani, qui va être le nouveau tsar du Cybers aux États-Unis. Donc, c'était effectivement Rudy, l'ancien maire de New York. Beaucoup d'expérience en sécurité. Il y avait une business qui faisait surtout du forensic, mais pas grand-chose d'autre. Puis, je pense pas que c'était lui-même, en fait, qui faisait les forensics. C'était probablement plutôt... aller chercher des gros contrats chez ses amis puis tout ça. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est de nouveau chef du cyber, ou plutôt des cybers, parce que ça se met au pluriel. Puis dès que ça a été annoncé, les gens se sont amusés à scanner son site web de sa compagnie, puis on a vu que ses certificats SSL étaient expirés, ça ne forçait pas HTTPS, il y avait du flash, des vieilles versions de PHP 5.4, des vieilles versions de Joomla qui roulaient là-dessus, SSH, un paquet de ports exposés, FreeBSD, une version d'il y a à peu près 8 ans ou quelque chose comme ça qui n'avait pas été updatée. Fait que c'est peut-être un peu épeurant. En même temps, bon, c'est peut-être un site web que tout le monde se foutait puis que c'était outsourcé à une compagnie qui était supposée s'en occuper. Puis même sa compagnie de sécurité à lui s'était jamais vraiment penchée là-dessus. Mais point de vue réputation, il me semble que ça aurait quand même été assez important qu'il fasse attention. Puis ce qu'on sait aussi, c'est que c'est vraiment Giuliani qui a demandé d'avoir ce poste-là. Ça n'a pas été donné comme ça, il l'avait mentionné plusieurs fois dans le passé. Donc je pense que ça va être assez intéressant de voir quel impact il va pouvoir avoir. Je ne sais pas, ça va être quoi ses grands projets, ses gros plans pour améliorer les capacités offensives puis défensives des États-Unis, ce qui a terme à sécurité informatique, mais il me semble que c'est pas super prometteur.
Mais non, mais là, leur communiqué de presse qu'ils ont sorti après la nouvelle, ils ont carrément dit faut s'améliorer au niveau de défense, mais à l'attaque, on est super bon. Fait que tout son mandat de défense risque d'être un peu bouette.
T'as peur. Ils vont monter un mur. Ils ont dit dans un communiqué de presse que leur attaque était bonne, mais leur défense était moins bonne, c'est ça?
Oui, qu'il fallait que ça améliore côté def.
Ben, je pense que c'est vrai. Côté ouais, offense, oui. Ils ont probablement beaucoup plus mis.
Mais c'est en lien avec le site web vraiment en poche.
Oui, non, ouais.
C'est ça, exactement. Exactement.
Je juste amplifier le tout. S'ils ne sont pas capables de gérer un site web de ce genre-là, j'imagine pas la défense nationale.
Ben, tu montes un firewall, puis get the hackers to pay for it, puis il n'y en a plus de problème.
Exactement.
Mais bon, c'est pas tant surprenant. En même temps, je pense pas que la personne qui a ce poste-là a nécessairement tant d'impact direct sur ce qui va se passer, mais ça risque de donner des conférences de presse, des entrevues, puis des choses comme ça qui vont être vraiment impressionnantes. Là. On va regarder ça, puis on va se sentir comme un docteur qui écoute Dr. House. Là. On va avoir le goût de frapper dans la TV, mais bon, ça va durer quelques années.
Ben ça va être parfait, ça, parce que oublions pas, là, il y a eu George W. Bush, puis l'autre gars, malheureusement, son nom échappe, mais ils nous ont donné deux termes qui ont resté encore aujourd'hui, là. Interwebs, puis the intertubes. Deux nouveaux mots dans la langue anglaise. Fait que peut-être que Giuliani va nous en rajouter d'autres.
OK, fait que ta prédiction, c'est que le vocabulaire va s'améliorer grâce à eux. Je pense qu'on devrait mettre ça dans le calendrier.
J'ai jamais dit améliorer, mais au moins, on va avoir de quoi à rire. Mais...
ouais, puis ensuite, à pleurer,
mais tu remarqueras, interwebs, maintenant, ça fait partie du autocorrect là, dans Android. C'est rendu dans la culture populaire qu'on peut dire interwebs, puis c'est correct.
Mais en tout cas, citation needed. Là. Je ne suis pas sûr que c'est un fait, ce qu'on est en train de raconter en ce moment.
Je vais aller chercher ça.
Mais bon, ça va être intéressant à suivre. Mais ce qui est certain, je pense, c'est que le fait que son site web était vraiment super mal protégé, puis tout ça, c'est drôle, mais c'est peut-être pas vraiment. C'est peut-être pas tant un indicateur de ses performances vont avoir l'air de quoi, parce que, comme je disais, c'est pas lui qui va se loguer et aller protéger ses serveurs FreeBSD. Fait que s'ils sont capables d'engager des gens qui ont de l'allure puis les mettre aux bonnes places, ça pourrait être bon, mais en tout cas, je pense pas qu'il y ait un track record d'avoir fait ça ou en termes de sécurité informatique jusqu'à présent. Donc, à suivre.
Yes, on va sûrement avoir plein d'autres nouvelles avec cette personne-là au cours de l'année, donc à voir. Prochaine nouvelle, on va y aller avec Richer et le super feature du iPhone.
Ouais, ben dans le fond, comme c'est là, ça a l'air avec la version 10 de iOS, on a un emoji iPhone crasher, dans le fond, qu'on met une certaine séquence d'emoji dans iMessage, et la personne qui reçoit le message, ça fait crasher de l'application. L'application repart, tu sais, la personne n'a pas besoin de réouvrir tout ça, mais ça fait crasher l'application en tant que telle. Donc, il envoie quoi, un petit drapeau, un zéro, puis un arc-en-ciel, puis quand l'iPhone essaye de pouvoir merger ça ensemble ou décombiner, ça marche pas, puis ça fait juste comme ça crash, l'application crash. Fait que je sais pas si c'est une question de Unicode ou bien quelque chose d'autre qui essaie de pouvoir faire en arrière. J'ai pas les détails par rapport à ça, mais dans le fond, comme ça, c'était intéressant de pouvoir voir, et en même temps, il y avait une référence dans l'article qui parlait aussi d'un autre type de façon de crasher qui faisait que ça enregistrait le tout en contact. Quand tu faisais crasher ça, ça enregistrait en contact, et le contact pouvait être envoyé directement à d'autres personnes qui sont dans iCloud. Fait que tu vas comme infecter d'autres personnes directement de cette façon-là, puis la personne n'a pas besoin d'ouvrir l'application pour que ça fasse ça. Pose des problèmes. Donc, c'est assez bizarre, tu sais. Mais bon.
De ce que j'en comprends, moi, c'est un problème de parser. C'est-à-dire que pour la création de ces espèces d'émojis combinés, il va parser l'information, puis là, il est juste comme fucked up, puis il se mélange à son parseur, puis il explose. Puis ça, c'est un fail qui est assez intéressant, parce qu'on normalement, on doit valider le input, n'est-ce pas?
Normalement, oui. Normalement, c'est une bonne chose.
Ce qui est le plus savoureux dans cette histoire-là, c'est qu'il y a un arc-en-ciel.
Oui, exact. Mais ça s'en prenait un. Fait que
c'est beaucoup moins grave quand même que, je sais pas, ça fait environ 2 ans, il y en avait eu un autre bug où ça faisait vraiment crasher iOS au complet. Puis dans certains cas, ça faisait restarter iOS, puis dépendant des paramètres de notification, ça pouvait se mettre à restarter plusieurs fois, puis c'était vraiment, vraiment chiant comme bug. C'était un denial of service du téléphone au complet. Puis, bon, tu sais, je me souviens, j'étais en train de conduire, j'avais mes Google Maps qui me disaient où aller, puis j'ai mon ami Bernard, pour pas le mentionner, que pour le fun, me l'a envoyé. Tu sais, t'es en train de conduire, ton téléphone reboot parce qu'il y a un cave qui t'envoie un message texte. Toujours très cool.
Boom.
Fait que t'es obligé de te stationner, t'es obligé de pouvoir regarder, réarranger ton téléphone, pouvoir savoir ce que tu te rends, tu gaspilles du gaz.
Ah, non, c'est l'autoroute à 120, toujours le fun du hacking.
Exactement. C'est toujours un effet bizarre. Tu vois la petite pomme qui apparaît. Mais bon, c'est ça. Fait que dans le fond, ça. Je sais pas quelles répercussions d'autres répercussions que ça peut avoir. Ça peut aller plus loin que ça, mais c'est un inconvénient qu'on pourrait dire, c'est quand même drôle.
Mais je pense que c'est que la surface d'attaque de Messages s'est agrossie, parce que t'as le texte, t'as des emojis, là t'as des previews quand t'envoies des liens vers des sites web, des trucs comme ça, tu sais, qui auto-resolve, t'as maintenant des animations, tu sais, il y a de plus en plus de choses dedans, fait que ça va grossir la surface d'attaque, puis on va peut-être voir de plus en plus des bugs, puis il va peut-être avoir des bugs qui vont être exploitables plus que pour du denial of service. Là. Fait que je pense que plus qu'il va y avoir de features dedans, plus ça va arriver souvent.
Ben, c'est ça, tu l'as dit. Mais de toute façon, plus on rajoute de features dans quelque chose, on le sait, plus qu'il y a de chances qu'il y ait de bugs dedans. Fait que on va voir qu'est-ce que l'avenir nous dira par rapport à ça.
Fait que ça, c'est pour iOS 10, Richard?
iOS 10, puis ça faisait jusqu'à même 10.1.2 qu'il y avait un problème pour celui avec les contacts, là, que ça sauvegardait en contact, puis que ça envoyait ça. Là. Fait que pour l'instant, il parlait comme quoi qu'il n'y avait pas de correctif encore. Moi, c'était en date, l'article était en date du 18. Donc, ça fait pas tellement longtemps. Puis, si on va dans l'article, il y a une vidéo qui montre une démonstration, là, qu'est-ce qui... Le gars, il montre là, comment que ça fonctionne, comment que ça a été fait. Et okay. Donc, mais c'est... Non, c'est quand même drôle. C'est quand même drôle, mais...
Bon. Une belle raison de tourner au flip phone.
Ouais, ou les briques.
Ouais. m'a sorti mon vieux Nokia, je pense.
Ouais, j'avais un vieux Motorola dans le temps, mais qui pesait...
Ouais, avec le Nokia, tu peux spoofer les autres, puis les sniffer aussi.
Bon, c'est Post Canada à la place.
Yep. Ben, c'est ça que... C'est ça que Trump il a dit que c'était plus fiable que de pouvoir utiliser la poste parce qu'il n'y a aucun ordinateur de safe.
Ouais, mais c'est parce que maintenant, la poste utilise plein de scanners, d'adresses, puis tout est automatisé par des ordinateurs, fait qu'on est fail.
Yep. Prochaine nouvelle. Richer, Los Angeles, le collège qui décide de payer une rançon au lieu d'attendre un fixe.
Ouais, ben dans le fond, comme c'est là, c'est dans le temps des fêtes qui est arrivé, ils se sont fait attaquer par un ransomware. Ça a attaqué une couple de petits trucs dans le fond, ça a causé des problèmes sur leur site web en ligne, l'aide financière, les courriels, les voicemails, donc dans les boîtes vocales, et aussi que ça a bloqué plus de 1800 étudiants et le staff en même temps que leurs ordinateurs ne fonctionnaient plus, il n'y avait plus rien qui marchait. Donc, pour pouvoir régler tout ça, pour que ça puisse. Parce qu'en réalité, ils leur donnaient juste une semaine pour pouvoir régler le. Pour pouvoir payer. Sinon, ils détruisaient les données. Et la rançon était de 28 000 $ US. Donc, c'est pas beaucoup. C'est pas rien. Et donc, ils ont fini par payer. En Bitcoin, ils ont payé ça. Puis. Ça s'est réglé par la suite. Donc, ils ont payé la rançon. Donc, c'est pas drôle. C'est pas drôle pantoute.
Mais ils ont quand même été chanceux de pas se faire avoir. Parce qu'il y en a certains, même si tu payes, qui ne t'adonnent pas la clé de décryption.
Ben exactement. Donc, il y en a dans l'article qui est mentionné que ceux qui se faisaient attaquer par le Kill Disk, celui le ransomware sur Linux, qu'il avait demandé jusqu'à 218 000 $ pour décrypter ça. Et en retour, ben, ils ont juste tout effacé les données de façon permanente.
Ouais, ça, je trouve que c'est dangereux pour leur propre marché parce que les ransomware, ça marche tant que les gens espèrent avoir une assez bonne chance de récupérer leurs données. T'sais.
C'est exactement ça ce que j'allais dire. Hein.
Ouais.
Historiquement, les chances étaient quand même assez bonnes, t'sais, mais là, de plus en plus, il y en a qui vont essayer de juste faire un quick buck en carrément effaçant les données puis essayer de ramasser de l'argent. Ben, ça pourrait, dans le fond, ça pourrait peut-être être la chose qui est le plus grand danger au ransomware puis qui pourrait faire que ça devienne moins populaire. Ce serait juste si les gens avaient peur de payer. Mais tu sais, c'est facile de dire pas payer, mais souvent, c'est des montants qui sont tellement petits puis pour les compagnies, ça peut coûter tellement cher s'ils perdent les données. Ou même des fois, juste faire un restore qui prendrait plusieurs jours, mm-hmm. Ben, tu te dis, bah, c'est 10 000 $, 15 000 $ pour une compagnie qui fait des centaines de millions par année. C'est pas les plus gros montants.
Ouais. Quand tu fais l'analyse de risque, tu payes ce qui est plate. Mais ça arrive souvent que ça va être ça dans les stats. L'autre chose qui est drôle dans ransomware, c'est le gamification avec infecte ton ami et tu vas avoir l'atelier.
Ah oui, ça, j'avais trouvé ça drôle. Ça sorti. Oh,
ouais, en passant, Patrick, je t'ai envoyé une couple d'emails, t'as oublié de les checker.
Really? Prochaine nouvelle, je vais te email plus tard.
Bon, là, tu m'enverras un CSU là-dedans.
Non, mais il s'est passé beaucoup de choses au Canada-Québec. Un étudiant de l'Alberta, l'Université d'Alberta, accusé de cyberattaque. Merci Radio-Canada. Et c'est ça, l'étudiant de 19 ans est inculpé d'avoir eu accès à des ordinateurs sans autorisation, blablabla. Il a infecté la plupart des PC de l'université pour voler sûrement les user passwords des autres, des étudiants, des profs, et plus encore. Il n'y a pas beaucoup de détails dans l'article, mais c'est 300 ordinateurs avec potentiellement plus que 3000 user passwords. Donc, on n'a pas le dénouement encore, mais on risque d'avoir ça dans les prochaines semaines ou mois qui va arriver. En suivant le même genre de nouvelles, c'est le 16 janvier, il y a eu un étudiant 17 ans, donc pas majeur au Québec, qui a récolté 240 heures de travaux communautaires pour avoir piraté les bases de données de la police, de la Sûreté du Québec, pour avoir fait des dénis de service sur des sites web, sur le cégep de Lévis. Il y a eu un botnet, il s'est mis à voler des cartes de crédit. Il disait, c'est un mini botnet, c'est une centaine d'ordinateurs, mais qui a réussi à voler environ 4000 mots de passe, adresses, cartes de crédit, les NIP, les numéros d'assurance sociale et autres. Donc, il s'est fait ramasser assez solidement, mais ils ont donné seulement 240 heures de travaux communautaires, ce qui est totalement ridicule selon moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais.
Honnêtement, j'aurais donné un an de prison.
Il est mineur encore, là, mais
c'est ça le bug qui l'a sauvé, d'après moi, là, mais ça reste que ça fait pas de sens.
240 heures de travaux communautaires.
Ça dépend c'est quoi les travaux, peut-être, là, je sais pas. Là, si c'est ramassé.
Non, mais peu importe, là, que ce soit un travaux le fun ou pas le fun. Ouais, ça non, reste pas grand chose. Il y a un an de probation. J'espère juste que les médias. En fait, l'article médiatique de celle-là est assez mauvais parce que ça dit un crack informatique de 17 ans. S'il vous plaît.
Un jeune crack informatique, oui, oui, oui.
Ouais, mais c'est zéro. Non, c'est pas un génie informatique, c'est pas un crack, c'est un kid qui a pogné des logiciels, qui a pesé sur des pitons, un mafia boy numéro 2. J'espère qu'il n'y aura pas de job, justement, comme l'autre, comme notre autre mafia boy du Québec. J'espère juste que les entreprises vont comprendre que c'est pas du talent, bien, bien, là.
Probablement pas. Fait que dans 5-6 ans, on va le voir, surtout tout le monde en parle, en train de dire comme de quoi qu'il avait seulement fait ça pour tester leur sécurité.
Ouais, c'est l'excuse. L'excuse par excellence.
Exact.
Mais boy.
Mais c'est ça. C'est dommage, mais on va voir ce que ça donne en espérant qu'ils comprennent comment ça fonctionne et qu'ils vont écouter, en fait, là, après les nouvelles, la section de Steven qui devrait l'intéresser. Prochaine nouvelle, un vol de 5,5 millions de dollars à la coop fédérée avec le concept de la fraude du président. Donc, du social engineering par courriel, par téléphone, qui est la personne qui s'occupait des transactions bancaires de la coop. Quelqu'un a trouvé que c'était cette personne-là qui avait les autorisations, envoyé un courriel en se faisant passer pour le président disant « Vous devez faire un transfert de 5 millions de dollars vers la Chine parce qu'on fait une acquisition de blablabla. » La personne le fait, le transfert a été fait un vendredi après-midi, elle s'en rend compte le samedi. Tout est fermé le samedi, donc le transfert est disparu et aucune chance de le revoir. C'est une des attaques comme ça dans l'article. Évidemment, on parle que depuis 2-3 ans, il y a plus que 28 millions qui ont été volés avec cette technique-là juste au Québec. Donc, il y a une partie de sensibilisation dans les entreprises qui est manquante et ça va être une des prochaines choses à faire, là, tout ce qui est social, phishing et autres.
Mais les protections contre ça, en plus, c'est même pas technique, là, c'est vraiment les processus de transfert puis tout ça, tu sais, s'assurer qu'en haut d'un certain montant, pour être capable de déplacer d'argent sans plusieurs personnes puis tout ça.
Ouais, c'est plus ça, c'est sans plusieurs personnes, mais quand tu as énormément d'argent, puis mettons que eux, là, énormément d'argent, c'était 10 millions, mais tu vis juste en dessous, fait que la personne, elle n'a pas la double signature. C'est le bug des processus, il est là, mais ça reste que c'est du processus puis c'est de l'autorisation comme ça qui est la solution, là.
Moi, j'ai vu des cas où est-ce que les personnes qui essayaient de faire le social engineering avaient quand même pas mal d'informations, puis ça devenait plus avancé. T'sais. Donc, par exemple, il y a une semaine où tous les exécutifs sont off-site, il y a un meeting quelque part, mais ils en profitent pour le faire pendant ce temps-là. Comme ça, le monde qui sont au bureau ne sont pas capables de facilement les croiser dans le corridor et dire « Hey Bob, j'ai transféré ton 8 millions que tu m'as demandé de transférer. » Comme ça prend une couple de journées de plus avant qu'on s'en rende compte, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà commencé à réduire ces montants-là. Là. J'en connais qui étaient à 1 million pour la double signature, qui ont descendu dans les 100 000 ou même en dessous de 100 000. Mm-hmm. C'est certain que ça rajoute une certaine lenteur dans certains cas, mais je pense quand même assez facile à faire rapidement. Là, mais,
ouais, puis tu vois, dans ce cas-là, justement, le président qui est lui qui valide, finalement, il n'était pas là cette journée-là. Donc, oui, les personnes font énormément de reconnaissance avant de faire le social engineering. Puis c'est pas juste du courriel, c'est des tonnes de suivis de courriel, des appels, des faux avocats qui appellent, plusieurs personnes différentes. Puis ça a l'air super réel. Les personnes connaissent tous les termes. Leur langage fait du sens pour ce niveau de manager-là.
Qui se font passer pour des fournisseurs aussi. Des fois, c'est... l'entreprise qui est propriétaire de Wired avait reçu une facture pour le papier pour fabriquer leur revue. Puis ce que la compagnie avait fait, c'est qu'elle avait même incorporé une compagnie qui avait presque le même nom, mais dans un autre état. puis qui avait envoyé une fausse facture quelques jours avant la vraie facture, qui avait téléphoné à tout le monde pour dire « Hey, salut, c'est votre fournisseur de papier, on a changé de compte de banque, faites le paiement à telle place. » Mais ils savaient c'était qui le vrai fournisseur, leur compagnie s'appelait presque le même nom, juste un changement de compte. Fait que c'est assez facile pour quelqu'un de penser que c'est vrai, puis de faire le virement. Puis ils se sont juste rendus compte quand la vraie compagnie les a appelés pour dire « Hey, vous n'avez pas payé pour le mois. »
Oups.
Il y a des campagnes où personne ne va être capable de se défendre contre. Là. Quand elles sont très bien faites à un certain point, il n'y a aucun montant de sensibilisation puis de training, etc. qui va te défendre. Il faut quand même penser à ça aussi. Là. Si elles sont si sophistiquées que ça, il n'y a pas grand-chose qui peut faire contre.
Non, c'est vraiment de l'autorisation de paiement beaucoup plus bas que l'habituel. Donc... T'as raison qu'il n'y a pas énormément grand-chose pour
mais
ça.
Marc Bain, je veux dire, oui, tu baisses le montant pour avoir la double signature, mais là, si c'était avec une compagnie où ils sont habitués, ou si c'est une habitude d'envoyer, faire des transferts de 2, 3 millions, 5 millions par, à tous les jours, ou quoi que ce soit, à un moment donné, les gens, ils vont être écœurés. Non, regarde, tu ne m'écœureras pas pour 15 000, là, ou tu ne m'écœureras pas pour 150 000, là, justement. Mm-hmm. Je peux pas nommer de nom, mais c'est arrivé à Toronto, il y a 3 jours. Quelque chose de très, très, très similaire à ça. Puis le montant, c'était 350 000 piastres. Pas besoin de double signature pour ça, eux autres, à cause qu'ils transfèrent ça à multiples fois par jour.
Oui. Ils sont fait avoir. Dans certains cas, il y en a qui pensaient pouvoir se faire rembourser par les assurances, mais ceux qui ont des assurances pour de la couverture, pour justement la sécurité de l'information, mais ils se sont fait dire « Vous n'êtes pas fait hacker. » Quelqu'un vous a demandé de transférer de l'argent, puis vous l'avez transféré. Il n'y a pas de malware, il n'y a aucune intrusion. Donc, c'est pas nous qui va payer. Fait que c'est plus un cas de fraude. Donc, j'en ai vu des compagnies aussi qui pensaient avoir une couverture pour ça, puis non.
Ouais. Au pire, c'est de la fraude. Non, mais en tant que tel, ils ont juste été trop gentils.
C'est ça.
Ouais, exact. Puis, ouais, justement, la coop, les assurances n'ont pas payé pour leurs 5,5 millions non plus. Donc, dommage. Mais en même temps... dans les articles que je lisais, il y avait aussi la méthode que plusieurs se sont rendus compte, finalement, qu'ils se faisaient frauder. C'est qu'au lieu de faire des replies à la personne, ils prenaient le copier-coller du email à la personne, puis ils écrivaient. Donc, ils prenaient le nom dans le bottin. Puis là, la personne répondait « De quel transfert tu parles? » Ils se rendaient compte que finalement, le courriel, il y avait une petite modification dans l'URL, dans le domaine name ou dans le nom. Puis, ben, ils arrêtaient finalement les transferts. Mais certains, c'est après 2, 3, 4 transferts qu'ils s'en rendaient compte. Là. Fait que...
Ben, ça, il y a un truc que j'ai trouvé qui est assez intéressant sur iOS. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent sur Android, mais parce qu'un des problèmes, c'est que maintenant, il y a beaucoup de gens qui prennent leur email sur des téléphones. L'interface est différente. Puis, des fois, c'est vraiment difficile de savoir. Tu vois juste le nom de la personne, il faut que tu cliques dessus pour voir le domaine, puis tout ça. Mais c'est très facile avec les politiques MDM de iOS de. Whitelister des domaines pour qu'ils apparaissent d'une autre couleur. Fait que par exemple, votre compagnie.com, ça va toujours être dans une bulle verte, puis quand c'est un autre nom de domaine, il va être dans une bulle rouge. Ça peut donner un indicateur visuel qui aide à trouver quand c'est du phishing ou du spear phishing. Je pense que Outlook Web permet maintenant de faire quelque chose qui est similaire, mais les fat clients pour PC puis pour Mac sont un petit peu plus loin en arrière, mais au moins c'est plus facile de voir le vrai nom de domaine sur un PC, sur un téléphone. Souvent c'est caché, ça demande de cliquer une ou deux fois. Fait que si vous avez un MDM, c'est quelque chose à regarder. Prenez les noms de domaine que vous utilisez à l'interne, peut-être les noms de domaine de vos plus gros fournisseurs, il n'y a pas vraiment de limite sur combien vous pouvez mettre dedans, juste pour que quand ça arrive de quelque part de louche, au moins pour vos exécutifs et le département de finances, que ça sorte en rouge quand c'est banque nationale avec 2e.com ou quelque chose comme ça. Hein.
T'as peu national, prends pas 2e.
Qu'est-ce que ça dépend dans quelle langue.
Non, c'est bien ça comme oui. Truc.
Je vais le mettre dans les notes, dans les show notes, ceux qui veulent le nom de la politique exacte.
Cool. Bonne idée.
Dernière nouvelle de mon côté, une mini-nouvelle, il n'y a pas grand-chose à dire en fait, là, mais j'ai eu une interview au début du mois de janvier pour parler en fait des implications des attaques de la Russie contre les États-Unis, puis voir les impacts possibles en fait de ces attaques-là au niveau canadien. L'entrevue est assez intéressante, elle va être dans les show notes. Un des points qui m'intéressait le plus à discuter avec eux surtout, c'était le fait justement qu'au Canada, la différence avec les États-Unis, il y a très peu de communication avec tout ce qui est le CSEC, le C6. On n'a aucune idée de ce qu'ils font et on ne le sait pas. Quand il y a des attaques et autres, versus certains ministères aux États-Unis qui vont dénoncer ça. Ils sont comme obligés de le dire publiquement. Ici, on n'en sait rien du tout. C'est un des sujets que j'ai hâte de voir évoluer ici. Là. Et petite nouvelle live, la France devrait se joindre.
Yay!
Steven a eu une idée super intéressante pour ce mois-ci, puis on va enchaîner avec toi. Dans le fond, est-ce que tu peux nous expliquer ton concept?
Ben, concept. Ouais, OK, c'est un gros mot, concept. Je préfère idée.
Ouais, okay, mais...
Ça a moins de lettres.
Idée, mais c'est un bon concept pour le podcast, puis en termes de séries qu'on pourra faire, séries d'articles ou de discussions dans les prochains mois.
On verra bien, mais merci beaucoup. Bref, moi j'ai toujours prôné l'information, puis le training, puis essayer d'aider les autres à apprendre quelque chose, à cause que c'est quelque chose que moi j'aime faire, c'est apprendre. Fait que j'ai commencé à essayer de faire un petit listing de sites web, de trucs en ligne qui peut aider les gens à peut-être soit débuter, continuer, avancer, perfectionner le truc en tout en infosec. Fait que c'était-tu trop rapide, ça, ou?
Ben non, c'est correct, mais je veux dire, tu peux continuer avec.
D'accord. Fait que bref, fait que la première chose que j'ai trouvée, une des choses que j'ai pognées sur Twitter, ce qui était quand même assez intéressant, c'est une grosse liste de sites web puis de sites web qui avec des VM downloadables où que les gens peuvent se presquer à hacker légalement. Fait que à mon souvenir, il y en avait 40, plus qu'une quarantaine. Avec Vulnhub, évidemment, il y a tous les habituels, là, Damn Vulnerable Linux, etc. Mais il y a aussi Damn Vulnerable iOS App, que moi, j'étais pas au courant qu'il y avait. Fait que si tu veux pratiquer un peu avec le mobile application, etc., c'est super bien. Puis, regarde, il y a une méchante grosse liste de sites web, de systèmes que tu peux t'amuser à hacker dans toute légalité. Fait que, à part de ça aussi, ce qui est fun aussi, parce que ça va de débutant à un petit peu plus avancé, on s'entend. Pour ceux qui ont besoin d'un peu plus d'aide personnalisée un à un, le site c'est infosecmentors.net. Ça a été commencé par Jimmy Vo. Lui, je le connais un petit peu, j'y joue souvent. Puis l'autre, c'est Kenneth Hoodlett. Lui, je le connais pas, mais il est quand même très gentil. J'ai la chance d'y jaser lui aussi. Fait que bref, le concept du site, c'est que si tu es un professionnel en sécurité puis que tu as du temps à consacrer pour aider quelqu'un d'autre, tu mets ton nom dans le chapeau pour être un mentor. Puis à l'inverse, si tu cherches un mentor, tu t'enregistres sur le site. Puis tu cherches un mentor qui est un peu dans la même lignée que toi. Fait que il y en a qui sont plus offensive, il y en a d'autres qui sont plus reverse engineering, il y en a d'autres qui sont plus exploit dev, etc. Fait que tu cherches un mentor qui fit avec ce que toi tu cherches à apprendre. J'ai trouvé ça bien intéressant. Fait que j'ai décidé de. Je me suis dit que de le partager avec vous autres, ça serait pas une mauvaise idée. Puis aussi, il y a OJ d'Australie. Lui, c'était un développeur Metasploit, puis il est rendu. À son compte comme Pentester, etc. Il a commencé à faire une série de stream sur Twitch ou c'était sur YouTube, je me souviens plus. Je pense que c'était sur YouTube. Ouais, c'est sur YouTube. Où ce qu'il fait, il fait du reverse engineering, il fait du exploit dev, PowerShell, etc. Puis il s'enregistre à le faire. Fait que ça peut être une demi-heure, ça peut être deux heures de temps. Puis il explique ce qu'il fait, puis on le voit faire des erreurs, puis on le voit réussir au bout du compte. Fait que si je regarde vite sa liste, il y en a un de quasiment 4 heures, il y en a un de 3 heures, un autre de 2 heures. Fait que si quelqu'un veut regarder OJ, puis apprendre un peu certains tools comme Immunity Debugger, puis une couple de nouvelles aussi, IDA Pro, il utilise ça et tout. Fait que c'est, je sais pas, si quelqu'un il est bien gros là-dedans, peut-être peut catcher une couple de nouvelles idées, puis une couple de nouveaux trucs. OJ, il est quand même très intelligent, c'est ce qu'il fait. Il est bien gentil aussi.
C'est un très bon cool, gars. Il est très sur Twitter aussi, facile.
Très sur Twitter, ouais. Quand il a lâché Rapid7, c'est comme un peu fait de... c'est quoi le terme, là? Il voulait se mettre de la publicité, ouais, de l'autopublicité, ouais. Pour justement, ça a marché, évidemment, parce qu'il a l'air, il est pas mal toujours occupé, ce gars-là. Mais il est toujours ouvert à des questions, puis tout ce qui est le fun. Fait que son vidéo, son YouTube stream archive, on va le mettre dans les show notes, là, sûrement. Là. À part ça,
c'est très cool. Puis je t'ajouterai une couple de sites de training aussi. Là. Il y a un site, je pense, c'est CAPCTF qui liste des tonnes de CTF en ligne, qui est une bonne pratique.
Oui,
aussi,
non, il y a ça, c'est sûr. Il y a des tonnes de CTF.
Oui, hein.
Il y en avait un, moi, j'avais bien aimé. Cool. Alors, il y en avait un que j'avais bien aimé, c'était juste du PowerShell. C'était uniquement du PowerShell. C'était super le fun, puis je le retrouve plus. Il était le fun. Non seulement que tu apprenais le PowerShell, il était le fun. Parce que moi, dans ma tête, c'est l'important. C'est ce qui est le plus important dans n'importe quoi, c'est que t'aimes ce que tu apprends et que tu t'amuses à le faire, quitte à le finir ou non. En autant que tu t'es amusé, c'est ça ce qui est important. Mais fait que bref, j'espère que les liens et les petits services que je vais partager avec les gens, ils vont être appréciés.
Super, merci Steven. Yes, ben Damien, tu avais quelques nouvelles que tu voulais nous parler. Je te laisse la parole.
Ouais, ce qui est intéressant ce mois-ci, c'est que il y a eu bizarrement des pirates informatiques, alors pas obligatoirement des génies, hein, parce que ça se saurait si ça existait des génies chez ces gens-là, mais des pirates qui ont quand même tapé dans du lourd. J'ai par exemple en ce moment en contact un Roumain qui me propose, et il m'a fait des démonstrations, hein, et il a exactement 3 zero day qui visent d'abord les possesseurs de Mac, et surtout une faille que j'ai moi-même vue, hein, qui vend 45 000 dollars US, hein, donc ça fait aussi pour nous... les Européens aux alentours de 45 000 euros, eh bien, un zero day qui tourne pour Tor Browser RCE. Il est capable, dès que quelqu'un clique sur un site particulièrement formulé, eh bien, tout simplement, d'injecter une merde, une cochonnerie, dans l'ordinateur. Alors, j'ai plus une nouvelle du gars depuis 2-3 jours, mais ces 3 zero day, il est vendé 80 000 dollars. Hein, ça donne un peu l'ambiance. Ça montre qu'aujourd'hui, ce genre de pirate, donc déjà, ont des outils qui permettent d'être utilisés par des gens qui peuvent mettre des moyens. Alors, on n'a pas besoin d'être un pirate russe à première vue, hein, pour pouvoir jouer à l'espionnage contre Trump ou compagnie. Mais ça montre surtout qu'ils sont efficaces et que ça se vend bien. Ça se vend même très, très bien. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce pirate-là m'a mis en contact avec un autre encore plus drôle, enfin en tout cas pour moi, qui, au 1er janvier, a annoncé avoir piraté le FBI. Alors, des pirates qui annoncent pirater et taquer le FBI, il y en a des dizaines, hein, il y en a des dizaines par an. Sauf que celui-là a clairement diffusé tout ce qu'il avait pu voler. Moi, j'ai en main, là, en ce moment, un peu plus de 10 000 comptes appartenant à des agents du FBI avec nom, prénom, numéro d'identité, donc à première vue d'agent, et leur numéro de téléphone. Et le gars est en train d'expliquer, il m'a expliqué, il m'a montré en plus qu'il avait réussi à faire une espèce d'injection à sa sauce, une injection SQL, directement sur FBI.gov. Donc c'est intéressant, personne n'en a parlé. Et moi, ce qui m'a intrigué surtout, c'est que au moment où le gars commence à diffuser ça sur Pastebin et sur d'autres espaces libres, eh ben, au fur et à mesure, ça disparaissait. Le mec a mis des fichiers sur Mega, ça a disparu, sur Pastebin, ça a disparu, mais quasiment dans l'heure. Donc autant dire que pour ce... Ouais, Pastebin. Pastebin, bien sûr, c'est pas des pâtes, hein, les gars. Hein, c'est... voilà, non, mais vous comprenez, on a un accent un peu particulier, j'admets. Bon, bah, ok, vous m'avez compris, hein, d'accord. Et donc, bah, juste pour finir sur ça, ce qui est intéressant, c'est que le mec, il a diffusé, il continue encore à diffuser, mais ce qui est très étonnant, c'est que quasiment dans l'heure, on sait pas qui réussit à tout effacer. Le mec a mis ça sur des sites de téléchargement chinois, ça disparaît dans l'heure. Sur Mega, ça disparaît dans l'heure. Sur Pastebin, donc, ça disparaît dans l'heure. Mais il continue à diffuser, ce qui veut dire que la faille est toujours possible et toujours accessible, et que surtout, on sait pas qui est derrière.
Ok, faut y...
Ça, c'est les dernières grosses actualités du moment.
Puis son Zero Day pour le Tor Browser Bundle, as-tu une idée, ouais, un peu comment ça marche? Qu'est-ce que ça attaque? Ça attaque-tu la version de Firefox qui est utilisée dans TBB ou...
Ouais, ouais, clairement. Ça utilise clairement la version de Firefox utilisée. Le problème, c'est que moi, j'aurais bien voulu mettre la main sur l'outil lui-même. J'aurais pu comprendre comment ça fonctionne. Sauf que j'ai pas encore eu cette chance-là. Et j'avoue que j'ai pas non plus 45 000 dollars à mettre pour ce genre de choses. Parce qu'on se doute que s'il le vend une fois, il va le vendre peut-être 10 fois. Et on sait qu'il y a des sociétés qui se sont spécialisées dans le rachat de ce genre de choses pour pouvoir l'utiliser à des fins plus ou moins légales.
Mets ton adresse Bitcoin dans les show notes. On sait jamais. Il y a peut-être un auditeur.
Ça, on sait jamais, ouais. Ouais, c'est ça.
On cherche un
à votre bon cœur, monsieur Lam. Je finirai côté info. Vous connaissez tous le congrès de Davos, hein, qui a lieu fin janvier. Les Anonymous ont tapé dans tous les sites du congrès économique, du forum économique mondial de Davos. Et là, pareil, ils ont tout piqué. Les mails, les mots de passe, ils ont diffusé les 48 administrateurs. Alors, on pourrait se dire quand même que pour un forum économique, les mecs pourraient se sécuriser correctement. Et que dalle, hein. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ils ont volé 115 000 dossiers de personnes contactées par le marketing de Davos. Donc autant dire que eux, on va peut-être leur demander des sous, ils doivent en avoir.
Wow.
Très intéressant ça.
Voilà les gars.
Yes, prochain segment, segment technique avec Guillaume. Qu'est-ce que tu as pour nous ce mois-ci?
Oui, bon, j'ai quelque chose qui, c'est pas nouveau comme tel, mais c'est enfin officiellement supporté par Chrome. Donc Google a maintenant une version de Chrome qui s'appelle Chrome for Business. Puis qui supporte maintenant officiellement des GPO, des Machine Policy, des politiques que vous pouvez aussi déployer à travers la configuration de Google Apps. Puis je pense que c'est un truc qui est vraiment, vraiment, vraiment bon à utiliser en entreprise côté, côté defense. Puis c'est plus efficace qu'encore une fois qu'un paquet de trucs que vous pouvez acheter. Donc la façon que ça fonctionne, c'est que vous téléchargez Chrome. C'est un MSI, contrairement à l'installation de Chrome normale. Puis vous pouvez le configurer pour qu'il enlève les autres versions de Chrome. Donc, si vous avez déjà géré Chrome en entreprise, là, ce qui peut être vraiment chiant, c'est que chaque utilisateur qui l'installe peut l'utiliser dans son propre profil. S'ils ne sont pas administrateurs, ça s'installe pareil. Puis on se ramasse avec 14 versions de Chrome sur chaque poste. Bon, le MSI, premièrement, va nettoyer ça. Il va avoir une version de Chrome est installée et centralisée dans Program Files. Une fois qu'il est installé, vous pouvez configurer les politiques dessus, soit à travers Google Apps, à travers le Registry dans Windows. Sur Mac, ça fonctionne aussi, là, donc tout ce dont je vais parler peut aussi se faire sur Mac avec des profils au lieu des GPO. Donc, c'est juste un déploiement à travers votre MDM au lieu d'être Active Directory. Vous allez downloader les fichiers ADM puis ADMX avec les templates pour les politiques de Chrome, surtout les Machine Policy. Donc, les liens sont dans les show notes. Puis, une fois que vous avez ces politiques-là de télécharger, vous pouvez créer des GPO qui vont s'appliquer sur Chrome, soit au niveau machine ou au niveau utilisateur, dépendamment de ce que vous essayez de faire. Puis il y a quelques politiques là-dedans qui sont vraiment extrêmement efficaces. Il y en a une première, en fait, qui prévient l'exécution de plugins qui sont pas à jour. Donc ça, c'est vraiment une super bonne policy à mettre en place parce que ça n'a pas trop d'impact négatif sur l'expérience utilisateur de juste naviguer. Ça va juste faire que les plugins qui sont pas up-to-date mais pourront pas être utilisés tant qu'ils seront pas mis up-to-date. Ça, je pense que c'est vraiment très pratique. Puis ensuite, il y a un autre setting qui s'appelle Default Plugin Settings. Puis si vous mettez ça à 3, ce que ça fait, c'est que par défaut, sur tous les sites web, les plugins vont être en click-to-play. Donc, s'il y a, par exemple, vous allez sur un site web, il y a une publicité qui est en flash puis qui essaie d'exploiter une vulnérabilité dans flash, ben, à moins que vous cliquiez pour l'exécuter, ben, vous allez être protégé contre ça. Puis ça, je pense que c'est un bon juste milieu entre bloquer Chrome, bloquer flash partout complètement ou le permettre partout parce que si quelqu'un va sur un site où il s'attend à avoir Flash, où il a vraiment besoin de Flash pour la fonctionnalité principale, il peut l'activer. Vous savez que ça va être la version qui est à jour parce que vous bloquez les plugins qui sont vieux. Mais en même temps, si c'est juste un petit Flash de 1 pixel caché dans un coin quelque part, il ne verra même pas le bouton pour faire Click to Play. Puis ensuite...
Qui s'attend à avoir Flash dans un site web qu'il va visiter?
Ben, par exemple,
Flash, c'est le temps. Les vieilles mères puis les blondes qui jouent à des petits jeux sur l'Internet.
Non, ça c'est sexiste, man. Je pense pas que c'est parce que t'es une femme que tu t'attends d'avoir Flash quelque part. Là. Et c'est juste que, par exemple, je pense que la vraie réponse, là, c'est les sites d'entreprise, de boîtes, genre tous les trainings de security awareness en entreprise.
Yep,
c'est vraiment ironique, là, mais ils sont presque tout ça est en Flash. Fait que ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y a un autre setting qui est plugins allowed for URLs qui override le default. Donc, si votre default, c'est click-to-play, bien, vous pouvez dire, OK, quand je vais sur site de marde de securityawareness.compagnie.com, bien, automatiquement, il va s'exécuter. Donc, il n'y a même pas de click-to-play. Flash va s'exécuter automatiquement quand il est là. Mais si vous voulez amener ça une étape plus loin, par exemple, si vous êtes dans un environnement à plus haute sécurité, vous pouvez carrément dire que votre default, c'est que Flash ne s'exécute pas. Puis, vous pouvez créer une whitelist où est-ce que Flash va pouvoir s'exécuter, puis un autre whitelist. Ou sinon, vous pouvez faire une blacklist. Mais pour l'avoir fait, je vous dirais qu'en termes de whitelist, là, vous aurez peut-être besoin d'une une centaine, 100, 150 sites web whitelistés, là, ça couvre une très bonne partie de ce qu'il y a sur Internet qui est legit, puis qui utilise Flash, puis que les gens vont utiliser en entreprise. Tu sais, ça peut être des choses comme, par exemple, quelqu'un va sur YouTube, il y a certaines features qui sont juste disponibles en Flash, vous voulez le permettre là, il n'y a pas trop de chances qu'il y ait du malware Flash sur YouTube.com. Fait que c'est quand même pas si pire que ça, faire une whitelist. Puis une fois que vous avez ces GPO-là en place, ben ça vous permet aussi de faire plein d'autres trucs super intéressants, comme les extensions. Il y a beaucoup d'extensions malicieuses dans le store de Google. Donc, dépendant du type d'entreprise, d'environnement que vous avez, vous pouvez encore une fois faire une whitelist. Donc, par exemple, vous faites une whitelist, vous dites, OK, tel ad blocker, on les permet, puis pas le reste. Les plugins pour Google Docs, on les permet, mais pas le reste. Ou vous pouvez faire des blacklists. Puis les blacklists, ben c'est certain que c'est jamais parfait, mais ça peut quand même être vraiment pratique. Comme par exemple, il y a quelques semaines, il y a eu un update d'Adobe Flash qui venait avec un plugin pour Chrome, puis il y avait une vulnérabilité là-dedans. Puis pourquoi j'ai un nouveau plugin extension Chrome parce que j'update Flash, Adobe Reader? Ben, vous avez juste à le bloquer, puis comme ça, vous n'aurez pas le problème partout dans votre entreprise. Fait qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de settings. Ça vaut vraiment la peine de les regarder. Puis une fois que vous avez bien configuré ça, ben, vous pouvez désinstaller Flash facilement de tous vos systèmes puis permettre l'utilisation de Flash juste dans Chrome, peut-être juste dans Edge parce qu'il est sandboxé aussi, mais plus avoir de Flash directement sur vos systèmes. Puis comme Richer disait, il y a beaucoup de trucs IT qui demandent Flash aussi, là, tu sais, des consoles admin pour des software, hardware d'entreprise, genre des cartes ILO, des fois des cartes DRAC, des consoles antivirus encore qui demandent Flash. Ça, je sais pas si c'est comme une façon de s'assurer que leur marché va toujours exister. fait que c'est facile de faire une whitelist pour ça puis bloquer le reste. Puis si même avec ça, vous avez encore besoin d'utiliser Flash dans Internet Explorer, ou dans n'importe quel autre browser qui n'est pas complètement sandboxé, ben là, ça devient un peu plus compliqué, mais il y a quand même manière maintenant de virtualiser certains packages, certaines applications. Par exemple, si vous êtes vous utilisez beaucoup les trucs de Microsoft, vous pourriez utiliser quelque chose comme AppV pour dire, bon, ben quand quelqu'un a besoin d'ouvrir la console Symantec, ben je sais pas, mettons que vous aviez une vieille version d'un truc fait par Symantec, vous ne l'avez pas updaté depuis 8 ans, puis vous n'avez pas le budget pour l'updater, puis ça demande Internet Explorer 6 avec, je sais pas, Flash, Java, mettons, 1.4.2 pour utiliser un classique. Ben, ça vous permet de dire, je vais créer un bundle IE6 plus Java 1.4.2, puis Internet Explorer, c'était quand même assez facile d'enlever les bookmarks, enlever la barre en haut, vous pouvez enlever un paquet de features, puis dire, bon, mais ben, quand quelqu'un va cliquer sur cette icône-là, je vais loader ces deux vieilles versions-là, mais le homepage sera ma console Symantec, puis je vais tellement rendre le navigateur impossible à utiliser qu'il n'y a personne qui va être intéressé d'utiliser pour le reste. Vous le bloquez dans votre proxy, puis ça fait quand même une bonne job, puis je pense que si vous faites tout ça sur tous vos browsers, ben c'est plus efficace que le trois quarts des choses que vous pouvez acheter sur le show floor à RSA.
C'est intéressant, très intéressant.
C'est bon ça, ouais, clairement.
Cool, thank you. Dernier sujet de discussion qui est arrivé dans les nouvelles dans les derniers mois principalement, qui est un peu terrible, mais c'est les bases de données MongoDB, Elasticsearch et autres qui se retrouvent accès direct sur le web, pas de user password ou des user passwords trop simples, qui se font défacer un après l'autre et des demandes de rançon sont faites. Ils suppriment la base de données, ils en font une copie ailleurs. Ils changent la base de données avec un message « Envoyez-nous un Bitcoin à tel endroit » et vous allez recevoir les données finalement ou la clé de décryption et autres. S'il vous plaît, ne mettez pas vos choses direct sur le web, ça n'a aucun sens.
Ben, je pense que ça n'a aucun sens, sauf qu'en même temps, je comprends pas qu'il y ait autant de plateformes comme ça que par défaut, il n'y a aucune authentification. Tu sais, c'est les safe defaults, là, on le sait, c'est vraiment, vraiment nécessaire. Là, tu sais, si Windows 2012, je ne suis pas encore comme Windows 2000, ça serait catastrophique. Puis, il y a des trucs, exemple, je pense que c'est Elasticsearch, la version open source, il n'y a même pas la possibilité de faire de l'authentification, tu sais. Il faut que tu achètes la version commerciale. Fait que, tu sais, imaginez si PostgreSQL, par exemple, la version open, il n'y avait juste pas d'authentification dessus. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui vont l'installer sur un VPC quelque part ou sur une machine en EC2 dans Amazon puis oublier de le firewaller. Là. Tu sais, je trouve ça comme un peu débile qu'il y ait encore des trucs où on se fie à 100% juste sur la sécurité réseau pour dire il n'y a pas besoin d'authentification, il n'y a rien qui peut se connecter là. Tu sais, en entreprise, on sait aussi, là, il n'y a pas beaucoup de segmentation. Fait que les problèmes qu'on voit là, les choses sont exposées sur Internet. Ça prendrait pas grand-chose pour qu'un ransomware qui est exécuté sur un PC dans une compagnie scanne puis voit « OK, je trouve-tu des MongoDB? » Puis là, on sait que s'il trouve des MongoDB à l'interne, il n'y a presque aucune chance qu'il y ait de l'authentification. Fait que tu es comme juste un peu plus protégé. Fait que je dirais vraiment, là, assurez-vous, vous avez des host base firewall locaux en plus du reste. Lockez ça le plus que vous pouvez, puis prenez les versions commerciales s'il faut pour avoir de l'authentification si vous en avez besoin, puisque
ouais, ça sera pas restreint au minimum à certains
débiles
qui peuvent y parler et autres.
Ouais, c'est ça.
Et le plus débile surtout, ce qui est inquiétant, c'est que c'est depuis juillet 2015 que tout le monde sait qu'il y a ces punaises de failles. Juste oui, pour info, moi, depuis juillet 2015, on avait 500 téra de données qui étaient déjà accessibles sur des serveurs MongoDB. Et les mecs, aujourd'hui, ils pleurent en se disant « Oh là là, on est attaqué par des ransomware ». Mais les mecs, ça fait deux ans qu'il faut corriger, ça fait deux ans
oui, ça a fait
qu'il
faut juste faire gaffe. La répétition, là.
Mais c'est dingue. Et ce qu'il faut, c'est que tous les mois, il y avait 5, 10 grosses entreprises qui se faisaient rien que déjà voler ou juste informer par la presse. Et là, on commence à s'énerver en se disant « Oh là là, il y a des ransomware ». Mais les mecs, non seulement leurs bases de données, elles sont mortes, mais en plus, elles ont été revendues et diffusées. C'est, je trouve honteux déjà la politique de MongoDB qui a dit « Ah mais attendez, relisez un petit peu notre mode d'emploi, vous allez voir comment ça marche ». Et aussi les gens qui utilisent, quoi.
Mais... je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens aussi qui utilisent ces plateformes-là et qui ne le savent pas. Tu sais, beaucoup de trucs que tu peux installer qui utilisent MongoDB en arrière, qui utilisent Elasticsearch en arrière.
Bien sûr.
Puis, tu sais, les gens, bon, OK, c'est quoi les scripts d'installation? Puis, ça, je vois ça souvent, des logiciels commerciaux qui viennent des fois des startups ou des compagnies qui sont un peu plus matures. Puis, tu lis ça, tu lis les processus d'installation, le manuel ou tu lis les scripts qui veulent que tu downloads en. Tu le pars 80 puis que tu pipes dans Bash as root. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ces trucs-là, je pense, puis qu'ils le savent juste carrément pas. Fait qu'ils voient dans les nouvelles des bases de données.
C'est inquiétant quand même. Ouais, mais ce qui est quand même inquiétant, c'est que c'est pas que des blogs de ma blonde, quoi. C'est quand même des supra-entreprises qui ont normalement de l'argent et des gens et qui, à minimum, se penchent sur le problème. Aujourd'hui, ils pleurent en disant « Oh là là, on a perdu 9 millions de clients dans les mains de pirates ». Mais c'est fou, quoi, de se dire que les mecs, depuis deux ans, ils se sont pas dit « Eh tiens, si on regardait, c'est chez nous, il y avait pas ce problème, quoi.
Ouais, » mais...
Il suffit de prendre juste Internet, de script, un Python, et puis basta. C'est ça qui est fou.
Sauf qu'en même temps, on sait que les choses ne sont pas sécuritaires par défaut. Ça va toujours être comme ça. T'sais, c'est comme les histoires des caméras qui sont directes sur Internet, bon, et puis qui se font... qu'il y a des botnets qui s'installent là-dessus, Mirai et compagnie. C'est sûr que la caméra ne devrait pas être sur Internet. Il devrait avoir un access list qui permet l'accès juste d'un certain endroit, puis tout ça, mais... les trucs ne sont pas résistants. Internet se rend tout le temps partout. Là, les... il n'y en a plus vraiment là, des vrais... les réseaux qui sont complètement segmentés, il y a trop de systèmes. Là. On n'arrête pas de parler du fait qu'il n'y a pas assez de spécialistes en sécurité de l'informatique, mais il n'y a pas personne qui va aller les checker. Puis les defaults ne sont pas sécuritaires. C'est sûr que ça va être pourri. Je veux dire, si quelqu'un savait ça il y a 15 ans, c'est vraiment Microsoft. Ça a changé vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le Windows XP, là, avant Service Pack 2, c'était vraiment, vraiment catastrophique. Puis, tu sais, le firewall qui démarre après la stack TCP/IP puis tous ces trucs-là, c'est vraiment différent maintenant. Tu sais, faire du hardening sur un serveur 2012 ou 2016, c'est pas mal moins intense que le faire sur un serveur 2003 parce que, bon, on sait, les paramètres par défaut, c'est ça qui va être utilisé. Fait que si vous êtes en train de travailler sur un nouveau produit ou un service que vous allez vendre à quelqu'un, je pense que vous êtes irresponsable si vos paramètres par défaut sont pas moindrement sécuritaires, là, tu sais.
C'est pour ça qu'il est important que tous ces gens pensent à s'inscrire pour le Hackfest 2017.
Ouais. Nice plug, c'était subtil en plus.
J'ai passé ma pub, tu as vu?
Awesome. Mais tu sais, c'est pas juste les produits open source hein, qui sont comme ça. J'ai eu certains clients qui ont des gros, gros produits à plusieurs centaines de milliers de dollars que l'authentification, c'est un cookie avec un user en clair, pas de password. T'es jamais là. Tu peux pas rien faire, c'est le produit que l'entreprise utilise le plus. Fait qu'on est obligé de l'isoler, juste tel IP peut y parler. Mais si tu as un méga hack dans l'entreprise, puis tu as quelqu'un qui reste à l'intérieur pendant quelques semaines, mois, il va le trouver, cet IP-là, puis il va être trop tard, tu sais.
T'es moins exposé à des attaques style ransomware parce que c'est pas tout le monde qui l'utilise, tu sais. Fait que t'as pas beaucoup de. T'as moins de chances qu'il y ait une grosse attaque qui vise tout sur Internet, qui va aller targeter ces plateformes-là. Mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui t'attaque, toi, personnellement, va le trouver tout de suite, là, puis. Où c'est assez commun. Là. J'ai vu beaucoup de produits qui disaient « Ah, une authentification est intégrée à Windows », puis tu te rends compte, tu crées un compte local avec le même username que sur Active Directory, puis ça rentre direct, là, ben, c'est pas du Kerberos, c'est même pas du NTLM, c'est juste de l'identification, là, tu sais. « C'est-tu Guillaume? » « Ah, ouais, oui, il s'appelle Guillaume, lui aussi, puis let's go. » Fait que Secure Default, là, que ce soit open ou commercial, je pense que c'est un minimum, là, surtout pour de l'authentification. Là, on n'est plus en 1972. Là. On a-tu un problème technique où j'ai tué la discussion?
Non, je pense que t'as tué Patrick, c'est encore pire.
Il est parti régler tous ses problèmes, il est parti en entreprise aller régler les problèmes.
Non, mais je pense que Patrick, Patrick, il travaillait sur la Station Spatiale Internationale cette semaine, c'est peut-être pour ça.
Petit lag.
C'est sa blonde qui lui a coupé le câble, ouais.
Il resterait les shameless plugs à faire avant de quitter. Oui. Steven, t'es-tu là pour faire la tienne? À toute apparence, non. Steven, son employeur cherche ardemment un sales engineer ou un sales engineer à Montréal. Donc, dans le show notes, vous avez l'information nécessaire. La plupart des vidéos du Hackfest ont été rendues disponibles dans les derniers jours de la semaine. Il en reste environ 2 ou 3 rendues disponibles. Donc, au moment de la diffusion de ce podcast, toutes les vidéos du Hackfest vont être disponibles sur YouTube. Et ce mois-ci, nous n'avons pas de Hackerspace qui va avoir lieu. Il va y avoir qu'une bière communautaire qui va avoir séance jeudi, 4e jeudi de chaque mois. Et à partir de février, normalement, les conférences Hackerspace vont recommencer.
Puis shameless plug de mon côté, on va mettre le lien, mais s'il y en a que ça leur tente de travailler avec moi, je cherche quelqu'un qui serait un très fort ingénieur en sécurité avec du talent côté logging, côté sécurité réseau, puis très très fort en Linux. Donc, vous regardez le lien sur les show notes.
C'est super. Alors, c'est pas mal tout pour tout le monde.
Oui, moi je recherche des bisous et je vous dis au mois prochain.
Au mois prochain.
Donc c'est tout pour le mois. On se reparle bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Over and out.
Salut.
Ciao, bye bye.
Salut tout le monde.
Et surtout, salut hein, Patrick.
Ce carotte.